Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi la probable réélection du Premier ministre indien marquerait un moment de bascule, tant pour le pays que pour le monde. Les élections démarrent ce 19 avril et vont s'étaler sur 6 semaines. Et Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, est déterminé à y faire triompher le nationalisme hindou. Quitte à menacer la laïcité au cœur de la démocratie indienne, quel est le projet exact de Modi ? À l'aube de son 3e mandat, doit-on s'inquiéter de sa dérive autoritaire ? Pour le savoir, j'appelle Sophie Landrin, correspondante du Monde à New Delhi. Inde, comment Narendra Modi menace la démocratie ? Un épisode de Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard. En tenue traditionnelle, Narendra Modi s'allonge sur un tapis devant la statue de la divinité hindoue, Ram. Ce jour-là, il est le maître d'une cérémonie religieuse sans précédent. Nous sommes le 22 janvier 2024. Le décor est grandiose et les invités triés sur le volet. Des industriels, des politiques, des stars du cinéma indien sont rassemblés au pied d'un temple blanc flambant neuf. Des hélicoptères survolent cette foule de plus de 7500 personnes pour l'arroser de pétales de fleurs. C'est l'inauguration du temple d'Ayodhya dans l'état de l'Uttar Pradesh. Un acte fondateur, car ce temple n'est pas n'importe quel temple. Il a été construit sur les ruines d'une mosquée datant du XVIe siècle qui avait été réduite à néant dans les années 90 par des fondamentalistes hindous. Une destruction qui avait provoqué de nombreux affrontements dans tout le pays, bilan 2000 morts. Et c'est donc sur ce site que Narendra Modi a précisé son ambition politique, exaltant une foule de partisans à quelques mois des prochaines élections.
Le 22 janvier 2024 n'est pas une date inscrite sur le calendrier. C'est l'avènement d'une nouvelle ère. Ram n'est pas un litige. Ram est la solution. À partir d'aujourd'hui, nous devons jeter les bases de l'Inde pour les 1000 prochaines années à compter de cette époque sacrée.
Une nouvelle ère décrétée par le Premier ministre, plus que jamais déterminée à acter la domination des hindous et à en finir avec les fondements laïques de la démocratie indienne. Bonjour Sophie.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Sophie, tu es notre correspondante à New Delhi. Tu as également écrit une biographie du Premier ministre indien intitulée « Dans la tête de Narendra Modi ». Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement à quoi aspire Modi avec ce 3e mandat à 73 ans et pourquoi est-ce si inquiétant pour l'avenir de la démocratie indienne ?
Alors, je crois que Modi, il veut entrer dans l'histoire et pour lui, être élu pour un nouveau mandat, c'est rivaliser avec le premier ministre de l'Inde indépendance, Nehru, et qui est son grand rival au regard de l'histoire. Et pour lui, c'est extrêmement important de faire même mieux que Nehru, qui avait gouverné l'Inde pendant 17 ans. Et donc, c'est son but, mais il poursuit aussi un objectif, c'est une transformation très profonde de l'Inde, qu'il a amorcée, mais seulement amorcée. Et donc, au cours d'un nouveau mandat, si jamais il est réélu le 4 juin, on peut s'attendre à des transformations majeures en Inde.
Alors, on va les examiner avec toi, ces transformations majeures à venir. Mais d'abord, pour bien comprendre comment Narendra Modi en est arrivé à vouloir créer une telle rupture avec l'un des pères fondateurs, entre guillemets, on va plonger avec toi, Sophie, dans sa tête. Alors, qui est Narendra Modi ? D'où vient-il ?
Alors, Narendra Modi, il est issu d'un petit village du Gujarat qui s'appelait Vadnagar. Il est issu d'une famille modeste. Sa famille était issue de la caste des Ganchis, c'était des presseurs d'huile alimentaire. Il est éduqué à l'école publique de son village, mais surtout, À partir de l'âge de 8 ans, il va intégrer une branche locale d'une très grande organisation idéologique en Inde qui s'appelle le RSS. En français, on appelle ça l'Association des volontaires de la nation. Il pousse la porte de la branche locale dans son village. Tous les jours, après l'école, il court dans sa branche, il écoute l'histoire de l'Inde revue à la sauce des nationalistes hindous. Il participe à la levée du drapeau safran, qui est la couleur de cette association. Il apprend les arts martiaux et le yoga. C'est important parce que il va, dès son plus jeune âge, être formaté par cette grande organisation idéologique.
Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est exactement que le RSS, qu'est-ce que cette organisation de jeunesse porte comme valeur ?
Elle est gigantesque, hein. C'est une espèce de pieuvre, elle est tentaculaire, elle revendique à peu près 8 millions de membres et elle irrigue toute la société indienne dans tous ses aspects, l'aspect culturel, politique, religieux. Ils ont des associations de bienfaisance, ils ont des syndicats, ils sont partout. Ils sont partout, des grandes villes, aux villages, aux tribus, partout. Et donc c'est une association qui a été créée en 1925 par un médecin brahman qui était inspiré par un idéologue nationaliste hindou qui s'appelait Savarkar. Et le grand but de cette organisation, c'est l'avènement d'une Inde qui serait une nation hindoue, on appelle ça Hindu Rashtra, avec une langue unique qui serait l'hindi, au lieu de, d'aujourd'hui toute une pluralité de langues vernaculaires dans les différentes régions, et qui serait une Inde majoritairement hindoue. Ce qui est important de savoir, c'est que l'Inde aujourd'hui, elle est constituée majoritairement d'hindous, ils représentent 80% de la population, mais il y a aussi des minorités importantes, il y a 200 millions de musulmans, 35 millions de chrétiens, il y a des sikhs, il y a des jains, toutes les religions sont présentes en Inde. Et donc, cette organisation, effectivement, elle prône le suprémacisme des hindous, c'est-à-dire que les hindous auraient des droits supérieurs aux autres minorités qui seraient en quelque sorte des citoyens de second rang, de seconde zone.
Donc si je résume, Sophie, Narendra Modi fait partie d'une organisation de jeunesse qui prône ce nationalisme, même ce suprémacisme hindou, puisque l'un de ses membres a même assassiné le Mahatma Gandhi en 1948. Modi est donc totalement imprégné par l'idéologie du RSS. Est-ce qu'il entre en politique pour la mettre en œuvre ?
Oui, donc il y rentre à 8 ans dans une branche locale et ensuite il va devenir un membre permanent quand il aura 19-20 ans et il y restera jusqu'à ce qu'il rejoigne une autre organisation du RSS qui s'appelle le BJP, donc qui est la branche politique. Donc toute sa vie professionnelle, en quelque sorte, il l'a fait dans cette organisation. C'est un apparatchik, on dit que c'est un pur produit du RSS, Modi. Son but, de toute façon, depuis qu'il est rentré au RSS, c'est de suivre, donc, de mettre en œuvre son idéologie. Et ensuite, il va construire un bastion politique, un fief au Gujarat, son état natal dans le nord-ouest de l'Inde. Et c'est là vraiment qu'il va poser les bases de sa future candidature en 2014. Donc, il essaye de construire au Gujarat un espèce de modèle idéologique et économique, en mettant en œuvre une politique véritablement presque une politique d'apartheid vis-à-vis des musulmans.
Des soldats indiens donnent la chasse aux émeutiers dans les rues d'Ahmedabad. Les forces spéciales anti-émeutes tentent de rétablir le calme dans la capitale du Gujarat. Des activistes hindous ont incendié plusieurs dizaines de maisons et de boutiques appartenant à des musulmans. Des mosquées ont été saccagées et près de 200 personnes ont été assassinées chez elles, dans la rue ou même brûlées vives dans leurs voitures.
Il se passe en 2002 des événements considérables qu'on a appelés les pogroms anti-musulmans du Gujarat. C'est un déchaînement de violence absolument inouï qui s'est produit là-bas alors qu'il dirigeait le gouvernement du Gujarat et on l'accuse d'avoir fermé les yeux sur les violences qui s'y produisaient, d'avoir fait intervenir la police très tard, trop tard, alors qu'il y avait déjà de nombreuses victimes. En tout, les pogroms se dérouleront sur 2 mois et feront au total 2000 victimes. Ces pogroms du Gujarat, c'est vraiment la tâche sur le CV de Modi. Ça va le poursuivre pendant très longtemps. Il sera interdit de territoire des États-Unis pendant 10 ans, interdit de visa. Ça a été vraiment une bavure vue de l'étranger. Mais par contre, lui, il en a fait une force politique pour conquérir le cœur des hindous en disant « Voyez, je suis capable de vous protéger contre la menace extérieure. » Parce qu'il considère les musulmans comme une menace extérieure qui peut menacer les hindous. Et donc, ces pogroms, c'est pour lui une arme politique en quelque sorte.
Sophie, on va un peu avancer dans le temps. En mai 2014, Narendra Modi est investi Premier ministre de l'Inde, 3 semaines après une écrasante victoire du BJP aux élections législatives. Et à ce moment, il défend publiquement son attachement à la constitution du pays.
Moi, Narendra Damodar Das Modi, je jure au nom de Dieu de maintenir l'intégrité de l'Inde. Je travaillerai sans crainte, sans colère ni haine, et je ferai justice à tous, conformément à la Constitution.
Sophie, pourquoi est-ce qu'il a été élu à l'époque ? Avec quels arguments ?
Il a fait toute sa campagne sur son bilan économique du Gujarat et en promettant de le démultiplier au niveau national. Il va pas tellement sur le terrain idéologique, comme s'il voulait pas faire peur, en fait. Il va plus sur le terrain des promesses de développement, de réduction de la pauvreté, de faire une Inde plus riche avec moins de pauvres.
Et quelles sont les premières réformes qu'il mène au pouvoir en 2014?
Il lance un programme qui s'appelle le New Welfareism. C'était tout un programme de développement pour doter les Indiens pauvres. Par exemple, il a tout un programme autour de l'installation de toilettes, un programme de développement de maisons pour les plus pauvres. Et puis, il favorise aussi, par exemple, l'ouverture de comptes bancaires. Et il va faire une réforme qui est très importante. Il va modifier le régime de distribution des aides. Là, en fait, il distribue l'argent presque directement. En supprimant les intermédiaires, il donne directement l'argent aux bénéficiaires.
Donc, Sophie, des arguments économiques, un programme plutôt social, on est loin de l'idéologie nationaliste que tu nous décrivais il y a peu. Alors, quand est-ce que le moment de bascule va arriver ?
Les choses se sont mises en place progressivement dès 2014. Mais 2019 marque une rupture parce qu'il prend 2 décisions très importantes qui étaient réclamées par le RSS, qui sont dans le programme du RSS. C'est d'une part l'abolition de l'autonomie du Cachemire. Il décide de supprimer l'article 375 de la Constitution qui accordait cette semi-autonomie à cette région du Cachemire. Donc, c'est la seule région indienne à majorité musulmane. Donc c'est important, c'est pas quelque chose d'anecdotique, bien entendu. La deuxième grande décision qu'il va prendre, c'est la réforme de la loi sur la citoyenneté, qui va générer d'énormes manifestations pendant plusieurs mois dans tout le pays. Qu'est-ce qu'il fait à travers cette loi ? Il décide d'accorder aux migrants venus des pays voisins, donc les migrants chrétiens, les migrants de toutes les religions, sauf la religion musulmane. C'est-à-dire que il fait une loi qui accorde la nationalité sur un critère religieux et qui exclut du bénéfice les musulmans. Et donc, cette loi va entraîner 3 mois de manifestations intenses. Alors, évidemment, des musulmans, mais aussi des intellectuels, des étudiants. Tout le pays est en grève, en quelque sorte. Il y a des manifestations partout. Et en fait, le gouvernement ne sait pas comment arrêter ça.
Le gouvernement actuel veut nous diviser sur la base de nos religions.
Nous tous, musulmans, chrétiens, hindous, sikhs, nous sommes tous indiens, citoyens du même pays.
Et ces manifestations, Sophie, elles vont dégénérer, c'est ça ?
Elles vont dégénérer par 3 jours de violence intercommunautaire dans les quartiers nord de Delhi, qui au total se solderont par 54 morts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les branches du RSS ont été appelées au secours du gouvernement, ont investi avec, ils ont amené par camion entier des voyous armés de bâtons, de revolvers, de briques et tout ça. Ils ont investi des quartiers musulmans qui étaient aussi des quartiers mixtes et ils se sont déchaînés pendant 3 jours. Ça a été un incendie de violence. En tout cas, ces violences-là, plus après la deuxième vague du Covid qui est arrivée, fait que les manifestations anti-loi sur la citoyenneté se sont complètement stoppées.
Et pour revenir à Modi, Sophie, il y a une autre décision, alors qui a été prise par la Cour suprême, mais sous la pression de Modi, d'autoriser la construction de ce temple à Ayodhya, dont on parlait d'ailleurs dans l'introduction de cet épisode, c'est ça ?
Oui, alors la Cour suprême va prendre en 2019 une décision très importante. Elle va arbitrer un très vieux conflit judiciaire qui durait depuis des années, en accordant aux hindous le droit de construire le temple de Ram, donc un temple hindou, en place et lieu d'une mosquée à Ayodhya qui avait été détruite par les troupes du RSS en 1992. C'est la revendication majeure du RSS depuis le début du siècle, et donc c'est une victoire considérable pour les hindous, pour le RSS, pour Modi, et c'est une défaite terrible pour les musulmans indiens.
Donc, une politique de plus en plus hostile à la minorité musulmane, tu nous le décris à travers tous ces événements. Et alors, dans l'autoritarisme aussi de l'État vis-à-vis des ONG, des médias, comment ça se passe ?
Ça, c'est très frappant. L'arrivée de Narendra Modi en 2014, plus sa réélection, marque l'instauration d'un régime extrêmement autoritaire et qui va se durcir d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Donc Modi, d'abord, commence par cibler les ONG. Depuis 2014, 20 000 ONG ont dû fermer sous pression du pouvoir qui les a accusés d'enfreindre des lois financières, des choses comme ça, mais qui étaient juste un prétexte. Donc on compte plus le nombre d'opposants qui sont arrêtés selon des lois d'expection. Ce sont des lois terroristes qui sont utilisées par le pouvoir pour arrêter ce qu'ils considèrent comme des opposants. Alors les opposants, ça peut être des opposants politiques, c'est des intellectuels, ce sont des universitaires, ce sont des manifestants dans la rue. En fait, ce qui se passe depuis 2014 et ce qui est accentué depuis 2019, c'est un effritement, une attaque contre tous les contre-pouvoirs qui garantissait la démocratie indienne. Ces contre-pouvoirs, c'est la justice qui est de plus en plus politisée, de plus en plus fragile, les médias, la majorité des médias indiens est à la botte de Modi, et les rares médias indépendants qui restaient sont complètement sous la pression du gouvernement et des agences gouvernementales. Et puis, c'est aussi le contrôle des institutions comme la commission électorale qui est complètement passée sous le contrôle du gouvernement. Donc, on assiste effectivement à un effritement de la démocratie au point que certains experts et certaines organisations spécialisées dans l'observation de la démocratie ont fait sortir l'Inde du champ de démocratie. Aujourd'hui, on l'appelle un régime illibéral, une démocratie imparfaite, une autocratie. En tout cas, l'Inde, qui prétend être la plus grande démocratie du monde, l'est de moins en moins.
Face à toutes ces dérives que tu viens de nous décrire, Sophie, la question que je me pose, c'est quelles ont été les réactions de la communauté internationale ? Est-ce que Narendra Modi a perdu des soutiens, notamment en Occident ?
Jusqu'à présent, il n'a perdu aucun soutien. Il a au contraire été totalement conforté par ses homologues occidentaux. Jusqu'à présent, la France n'a jamais rien dit, les États-Unis n'ont jamais rien dit. Et ce qui est très frappant, c'est d'observer combien l'Inde est en train de quitter le champ de la démocratie et dans le même temps, combien ses homologues occidentaux qui sont attachés au fondement de la démocratie autorisent tout à Modi. À tel point qu'ils n'osent même pas en parler quand ils reçoivent Modi ou quand ils viennent en Inde. Il n'y a jamais un mot sur les minorités, sur les libertés. Non, jamais.
Monsieur le Premier ministre, cher Narendra, mesdames et messieurs les ministres, vous nous faites l'immense honneur de votre présence un 14 juillet qui nous rappelle les racines de notre partenariat stratégique dont nous célébrons cette année le 25e anniversaire.
Sans doute, ce qui explique cette passivité, c'est le fait que l'Inde est devenue pour les Occidentaux un contrepoids très important à la Chine et à la puissance de la Chine qui menace l'équilibre du monde. Et donc, les Occidentaux, ils ont vu dans l'Inde, dans ce grand pays qui est une puissance nucléaire, une puissance économique en devenir très importante, ils ont vu donc la possibilité de faire un contrepoids à la Chine. Et c'est aussi un pays qui achète des armes, qui achète des rafales à la France, qui a besoin de centrales nucléaires, qui a besoin de multiples équipements. C'est un peu la poule aux d'or pour les Occidentaux.
Et alors Sophie, quels sont les alliés exactement de l'Inde? On a l'impression qu'elle est à la fois proche des Occidentaux, mais aussi de la sphère d'influence russe. Il se situe où exactement sur la scène internationale?
En fait, d'une certaine manière, l'Inde, elle n'a pas d'alliés. Elle a des pions un petit peu partout, mais elle se lie avec personne en particulier. Donc elle est dans plusieurs blocs. Elle est dans la russosphère. Moscou, c'est le principal fournisseur d'armes de l'Inde. Elle est à la fois dans la sphère des Occidentaux. Elle est dans les blocs géopolitiques autour du Japon, de l'Australie, des États-Unis. Elle est aussi avec un bloc dans lequel il y a la Chine. L'Inde, dans sa politique étrangère, cherche ses propres intérêts, cherche à exploiter les contradictions du monde dans ses propres intérêts. En fait, l'Inde, elle fait ce qu'elle veut.
Et cette stature internationale que tu nous décris là, il s'en sert pour les élections qui s'ouvrent?
Oui, c'est un aspect qui est important. En fait, Modi, pour sa tentative de réélection, mise sur deux choses, à la fois sur sa stature internationale et puis sur le fait religieux. Toute sa dernière année, il l'a investi à l'international. Et ça, c'est une grande réussite de sa part. C'est quelque chose qu'il faut noter. Il a réussi à remettre l'Inde au rang des grandes nations. Toute l'année dernière, donc, il a été reçu en majesté aux États-Unis, il a été reçu au Caire, il a visité je ne sais pas combien de pays. Il a redonné aux Indiens le sentiment de fierté d'une grande nation qui compte sur le plan international.
Sophie, pour conclure cet épisode, qu'est-ce qu'on peut en attendre alors de ces élections qui débutent ce 19 avril? Est-ce que c'est gagné d'avance pour ce Premier ministre aux tendances autoritaires? Et alors, tu nous parlais d'une démocratie imparfaite, d'une démocratie illibérale. Est-ce qu'il y a le risque que Modi aille encore plus loin pour ce nouveau mandat?
Alors, en politique, rien n'est jamais joué d'avance. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que Modi part avec un avantage considérable sur ses adversaires. Il a plus de moyens, il a les médias à sa botte. En fait, l'opposition, elle arrive quasiment pas à exister dans cet écosystème médiatique-là. Et donc, il part avec cet avantage. Et donc, tous les analystes disent qu'il devrait gagner les élections. Il devrait les gagner. Et c'est d'autant plus important qu'il y a un risque, si jamais Modi gagne. Le risque, c'est une modification de la Constitution qui permettrait à Modi, ça nous renvoie à ce que l'on disait précédemment, de véritablement amener cette Inde hindoue qu'il espère de ses vœux. Cette Inde qui quitterait le champ de la laïcité, qui avait été inscrit dans la Constitution, qui est une chose qui est fondamentale, qui a permis aux différentes minorités de vivre ensemble. Et donc le risque, ce que redoutent les démocrates, c'est que Modi touche à la Constitution.
Merci Sophie.
Merci.
Avant de nous quitter, je vous rappelle comme d'habitude que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à tous nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.